Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Christelle. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci Priscilla pour l'invitation.
Tu es directrice artistique en freelance depuis 2013.
Exactement.
Et on peut dire que tu es spécialisée dans le print.
Exactement.
Alors moi aussi, je suis freelance depuis bientôt 2 ans. Ça a été plus une galère que du plaisir, donc j'aimerais avoir tes retours, tes conseils, parler de tes échecs et voilà tout cet aspect de freelancing qui est un peu différent dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as hésité à te lancer ?
Alors, pas du tout. En fait, ça s'est pas du tout fait comme ça. C'est-à-dire que moi, je me suis lancée parce qu'on me l'a proposé. J'ai jamais choisi, en vrai, d'être freelance initialement. Pour recontextualiser, je suis sortie d'école, je fais un stage, un deuxième, et à la fin du deuxième stage, au bout d'un an, on me dit, écoute, on adore travailler avec toi, on aimerait te confier un magazine pour que tu gères la direction artistique de ce magazine-là à chaque fois, à chaque numéro, donc c'était un biannuel. Et puis moi, je savais pas trop ce que c'était en fait que d'être freelance. Enfin, je le savais en soi, je connaissais des graphistes indépendants, mais de loin. Pour moi, c'était des grosses pointures. Donc en gros, faire partie du monde indépendant, ça me paraissait un peu fou. Et évidemment, enfin, c'était un peu le projet de rêve à l'époque. Et j'ai directement sauté le pas. Et ça a été pas la meilleure chose à faire parce que en gros. J'ai appris tout sur le tas, en fait, avant même de... Enfin, en fait, quand on décide d'être freelance, ça, on se prépare mentalement, on se prépare à affronter des choses et à les vivre parce qu'on l'a choisi. Moi, c'était vraiment l'inverse. Genre, j'ai démarré parce qu'on me l'a proposé. Et en fait, après, ça a été... les choix se sont faits, en fait, au fur et à mesure, par la suite, en me disant « Ah ouais, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être freelance ? Est-ce que être salarié, ça m'intéresserait pas ?» Et... Voilà, j'ai construit les choses au fur et à mesure de cette manière-là.
De toute façon, être freelance, être entrepreneur, il n'y a pas d'école.
Non.
Donc, on est obligé d'apprendre sur le terrain.
Exactement. C'est vrai qu'il n'y a pas d'école, mais je trouve que quand on le choisit, c'est-à-dire quand je vois des indépendants aujourd'hui avec qui je suis en contact, qui me disent « Ah, alors moi, je commence ma vie d'indépendant, ça fait 6 mois que j'ai fait mûrir le projet, je sais un petit peu ce que je veux faire, je connais ma cible, je connais mon offre, etc. » Et je me dis « Waouh !» Moi, j'y suis allée la tête dans le guidon et c'est vrai que ouais, j'ai carrément appris sur le tas. Et je trouve que même c'était vachement difficile à l'époque parce que... plus difficile qu'aujourd'hui, on va dire. Parce que, en fait, il n'y avait pas tous ces blogs, tous ces podcasts, tous ces contenus qu'on retrouve aujourd'hui sur le web liés à l'entrepreneuriat, au freelancing, etc. Je pense qu'il y avait 3 bouquins qui existaient. Il devait y avoir des blogs, mais c'était probablement des blogs américains. Moi, personnellement, j'ai dû m'aider de mon entourage qui était de bons conseils, mais ce n'était pas des indépendants. Donc ça a été vraiment ok, comment on fait un devis, comment on fait une facture, des choses qui sont beaucoup plus accessibles en fait aujourd'hui en termes de si on se pose une question, en fait il suffit de regarder sur Google et les 3/4 du temps, voire 99% du temps, en fait on a la réponse.
On peut se former un peu plus facilement maintenant.
C'est ça.
Et à un moment t'as dû te poser les bonnes questions, à dire ouais, c'est quoi ma cible, etc., non ?
Ouais. Moi, j'avoue que je me les suis posées assez tardivement, ces questions, parce qu'il y a eu un effet boule de neige, c'est-à-dire que j'ai commencé à bosser justement du coup pour ce magazine-là. Et puis, c'était très lent au début, voilà, le temps de faire un numéro, 2 numéros, et puis de commencer à avoir des contacts, de constituer un book, de l'envoyer, etc. Mais après, en fait, petit à petit, j'ai travaillé avec une maison d'édition, une deuxième, d'autres éditeurs indépendants également. Et en fait, ça s'est fait assez rapidement. Et je me suis jamais posé la question au tout début, quelle sera mon offre, quelle sera ma cible, etc. J'étais juste en mode, bon, moi, je veux faire des bouquins. Je veux faire des magazines, et puis voilà, et on y va. Et c'est vrai que ces questions-là, je me les suis posées beaucoup plus tard, quand je me suis vraiment dit, ah ouais, mais en fait, j'ai juste pas forcément seulement envie de répondre à une demande, j'ai envie effectivement de construire une offre et de construire quelque chose de beaucoup plus large en fait.
Et t'y es arrivée ?
Bah écoute, c'est un cheminement en fait toujours en cours. Donc ouais, j'ai remodelé tout ça à partir de depuis l'année dernière en fait. Et c'est quelque chose qui est très long à mettre en forme, je trouve. Et c'est quelque chose sur lequel t'apprends tous les jours en fait. Donc de toute façon, je pense que c'est un cheminement sans fin d'une certaine manière. Mais oui, en fait aujourd'hui je suis beaucoup plus claire dans ce que je veux, dans ce que je fais, dans ma manière de communiquer aussi. Alors qu'avant, c'était un petit peu, je tâte le terrain et puis on voit où ça mène, quoi.
T'as eu des doutes pendant toute cette période ?
Ouais, j'en ai eu plein. J'en ai eu beaucoup au début, du coup. Des doutes liés à ma légitimité d'être toute seule à proposer mes services, d'être de pas avoir le cadre d'une entreprise, de pas avoir même l'expérience suffisante. Au début, ça a été beaucoup de doutes comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ça s'estompe aussi. On se nourrit des expériences, on se nourrit des retours des clients, etc. Donc, on apprend beaucoup. Et puis, ces doutes se comblent au fur et à mesure. Et puis après, il y a eu d'autres doutes sur est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer mon temps à être graphiste ou directrice artistique ? Est-ce que j'ai envie de faire du print ? Il y a eu beaucoup de fois cette question, parce que le web, c'est évidemment plus facile. Enfin, c'est pas plus facile, c'est plus accessible, et il y a beaucoup plus d'offres et de demandes. Et est-ce que j'ai envie de... est-ce que j'ai pas envie de tout lâcher, de faire quelque chose de complètement différent ? Est-ce que... Voilà. Mais c'est vrai que... Enfin, ça a été beaucoup de questions liées à mon activité, ou mon cœur d'activité. Mais en fait, il y a eu peu de questions liées à mon statut d'indépendante, en fait. C'est vrai que ce statut, je l'ai... Voilà, même si, comme je disais au tout début, je ne l'ai pas choisi, ça a été difficile, en fait, au début, aussi, de me dire « Ah ouais, en fait, je ne l'ai pas choisi, donc je ne me bats pas pour quelque chose que j'ai choisi, etc. » Mais au final, c'est quelque chose qui était tellement ancré dans ma... Enfin, ça fait partie de ma personnalité, en fait, l'indépendance, le fait de tout gérer, de gérer un business, de gérer tous les aspects possibles et de créer quelque chose qui me ressemble entièrement. Et à ce niveau-là, ça a été assez facile d'avoir cette certitude-là et puis, en fait, d'essayer de créer quelque chose autour et les doutes, en fait, on les surmonte un petit peu au fur et à mesure, quoi.
Et comment tu les as surmontés, tes doutes ?
Franchement, beaucoup par l'expérience et par, je pense, le fait de bien m'entourer aussi. Le fait de prendre conscience de ma valeur, le fait de prendre conscience qu'en fait, ce que je propose est légitime, que
t'as des bons retours, des bons clients.
Ouais, carrément, mais à tout niveau, et puis tu vois, en fait, ça, au fur et à mesure, ta confiance, elle se nourrit, en fait, c'est toujours la même chose, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur dont on parle toujours, et qui fait, je pense, partie de tout, de la vie de tous les indépendants, et c'est ce qui est, en fait, le challenge, en fait, parce que si on n'avait pas ça, franchement, tout le monde ferait on ferait tous ce qu'on veut, et on irait... pas forcément plus loin, je pense pas, mais on ferait les choses différemment et ça serait moins challengeant. Et du coup, je pense que, vaincre ce syndrome de l'imposteur, c'est hyper difficile, mais ça se fait à force de persévérance, de continuer dans le même état d'esprit, de rester aligné avec ce qu'on veut faire et d'avoir confiance de plus en plus. Et ça, franchement, je pense, pour ma part, du moins, c'est le cas. Il n'y a que l'expérience qui nous nourrit à ce niveau-là.
Mais j'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui se la posent et de freelance. Et c'est aussi un des plus gros saboteurs, en fait, si on reste dedans. Et à un moment, vous êtes légitime, arrêtez de vous poser mille questions. Ouais. C'est souvent au début, en fait, qu'on a le syndrome de l'imposteur, parce qu'on se dit « ouais, mais c'est peut-être pas assez bien ». Et après, on se compare, on se dit « ouais, ils sont tellement mieux que moi et tout ». Moi, faut y passer, sinon le syndrome de l'imposteur, il tue la boîte, quoi.
Bah après, c'est assez difficile à combattre, parce que ce syndrome, il fait partie de soi, et en fait, c'est toi contre toi, en fait, d'une certaine manière. Mais alors c'est marrant parce que je m'étais fait la réflexion encore il y a quelques temps que... Enfin, j'ai des périodes comme ça où j'ai l'impression de n'avoir aucune valeur sauf quand un client... sauf quand je travaille avec un client en fait. Donc évidemment, en tant que graphiste, j'ai des périodes un petit peu creuses. J'ai des moments, parfois un mois ou deux, où j'ai moins de charges de travail, moins de clients, et du coup c'est un peu plus calme, et heureusement. Mais clairement, j'ai eu des gros moments dans ma vie où je me disais, ah ouais, mais en fait, sans aucun client, je ne vaux rien, je n'ai aucune valeur. Et tu vois, le fait de prendre conscience de ça, je me suis dit, mais attends, c'est complètement idiot, parce que ton travail, il vaut ce qu'il vaut, avec ou sans client. Enfin, évidemment, je produis des choses pour des clients, mais c'est pas parce que ta mission se finit que le lendemain, si t'as plus de clients, eh ben tu vaux plus rien. Et c'est fou. Et rien que le fait de prendre conscience de ça, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer d'être créative tous les jours, de créer quelques... Alors tous les jours c'est difficile, mais de créer des choses le plus régulièrement possible, même pour moi, et pour me dire, ah en fait, même si j'ai personne en fait en ce moment, si j'ai aucun client ou quoi, bah du coup je vais chercher mon estime de moi-même en fait. Et en fait, je pense que ça m'a beaucoup aidé à vaincre ce syndrome, et aujourd'hui j'ai plus aucun problème de légitimité, de confiance en moi, etc., parce que je me sens vraiment à l'aise à ce niveau-là.
Mais ça, c'est aussi un syndrome que j'ai eu des potes avec qui je parle et tout, entrepreneurs. C'est quand on confond enfin, c'est pas ça, mais c'est quand en fait on est notre boîte en fait. On n'est plus nous,
Ouais.
mais en fait, comment dire?
Il n'y a plus de frontières.
Voilà, il n'y a plus de frontières. On est. Voilà, je suis Priscilla, je suis data analyst. Non, non, tu es Priscilla.
Ouais.
Ta boîte, c'est être data analyst. Et en fait, faut arriver à faire le recul. En fait, c'est une entité.
Ouais.
Et toi, t'es toi. Et ça, que quand tu dis, ouais, les gens, ils s'intéressent pas à moi, ils veulent pas travailler avec moi, je suis nulle, je suis une merde et tout.
Ouais,
Et là, t'es dans l'engrenage où t'as juste envie de rester dans ton lit pendant des heures et des heures. Et en fait, faut arriver à sortir de ça et dire, non, je vais faire autre chose, voilà, qui va me nourrir bien et qui va me faire avancer. Et peut-être les projets que je vais mettre en place, eh ben, je vais les montrer, des gens, ils vont aimer. Et
carrément.
puis, tu seras dans un cycle positif.
Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que tu as complètement raison en fait de parler de cette frontière-là parce que oui, il y a un énorme gap entre ta personne et ton activité ou ton entreprise. Et en même temps, c'est ce qui fait l'intérêt du freelancing, c'est que finalement, il n'y a plus de frontières non plus. Parce que, enfin, dans le sens où, moi, c'est ce que j'aime en fait dans ce statut, le fait de travailler de cette manière-là, c'est qu'en fait, ok, j'ai généralement, voilà, j'ai mes heures de travail, j'ai mon lieu de travail, j'ai mes habitudes de travail, etc. Mais qu'importe, je veux dire, le soir, quand je me brosse les dents, je pense quand même à un truc qui est lié à ma boîte. Je fais quand même, je me réveille parfois la nuit avec une idée. Et ça, je pense que tous les indépendants font, enfin, on passe par là. Et moi, enfin, c'est ce qui me rend, enfin, c'est ce qui me fait plaisir au quotidien, en fait. C'est ce qui me, comment dire, ça me motive, en fait, de fou. Parce que, voilà, j'ai testé un jour le salariat pendant un an et le truc qui m'a le plus manqué, mais ça m'a déboussolé incroyablement au début, c'est que bah tu sors du boulot à 18h et tu ne penses plus au boulot. Et enfin t'as plus à y penser en fait, ça n'a pas lieu d'être, c'est pas ta boîte, t'as fait ton taf, t'as fait tes heures et tout. Et en fait moi je, enfin c'est dingue, pourtant j'avais des trucs à faire et tout, mais j'avais l'impression de m'ennuyer. En fait j'avais l'impression qu'il me manquait un truc, tu vois, et que en fait j'étais pas complète. Et pendant toute cette période de salariat, je me suis dit, mais je veux retrouver ça en fait, je veux retrouver cette stimulation quotidienne d'être freelance et de pas avoir de frontières quelque part entre ton activité et ta personne, mais en même temps d'essayer d'en avoir un minimum parce qu'il en faut, on est d'accord, pour survivre en fait en tant que personne.
Mais en fait, la bonne question, c'est de se dire, est-ce que c'est portant ou limitant, tu vois?
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'à des moments, j'ai des phases où, je pense toi aussi, je suis tellement épuisée mentalement, je pourrais me coucher à 18h. Surtout que la période du Covid, etc., ça n'aide pas. Tu
J'allais
dis.
dire, moi ça m'arrive en ce moment.
En plus, comme on dit, quand le soleil se couche, le
Ouais.
corps, il est chronométré à se dire, ah ben,
C'est
c'est
l'heure,
bientôt l'heure, les
bien
gars.
sûr.
Moi, et on se laisse 2 heures. Donc, quand le soleil se couche à 14h, même si ça fait cet effet. Mais se coucher à 16h et à 18h, tu commences à être fatigué, 19h, 20h, en fait, c'est normal parce que c'est un cycle du corps.
Ouais.
T'es quand même un peu déboussolé. Tu fais, non, mais je peux encore travailler, tout. Ouais. Pourquoi je suis pas en forme ? Ouais. Il y a des moments, voilà, si t'es épuisé mentalement, à dire, waouh, parce que le subconscient, le nôtre, il travaille tout le temps. Quand tu conduis, quand t'es sous la douche, tu fais du vélo, tu marches, t'as...
Bien sûr, c'est une charge mentale énorme, en fait.
Tes idées de ouf. Et en fait, le salariat, c'est bien, aussi, ça a des bons côtés, parce que t'as tellement pas cette charge mentale.
Bien sûr.
Et des fois, je me dis, ah, oh, je deviendrais bien salarié.
Mais on est d'accord.
Et je sais pas si des fois, même si t'as fait un an de salariat, il y a des passes où tu te dis, ouais, en fait, cette charge mentale, elle est chiante, je redeviendrai bien salarié pour goûter...
Je pense que je...
Ça t'a...
Non, vacciné. Non, ça m'a... C'était rédhibitoire, genre, plus c'est jamais, plus bon. Jamais, ouais. Ça c'est sûr. Je pense qu'en fait, j'ai... Moi, dans ma tête, ça serait plus... Tiens, je prendrais un an pour aller voyager, plus que...
Tout le monde le prendrait, ce un an que... pour aller...
plus que retourner en... Enfin, non, parce que, clairement, être salarié, moi, ça m'a... Ouais, ça m'a trop limitée, ça m'a trop frustrée, j'étais tellement malheureuse, je... Voilà, j'en ai vraiment bavé à ce moment-là. Et qu'être freelance, ouais, c'est dur. Ouais, c'est, il y a des jours où... Il y a beaucoup de jours même où ça va pas, où tu sais pas, tu navigues à vue, etc. Mais ça vaut... Enfin, quand t'as des bons jours, mais ça vaut tout ce que t'as vécu, en fait. Et ça, c'est... Non, pour moi, impossible de retourner au salariat, quoi.
Donc, on va dire qu'il y a aussi les bons côtés, on va en parler. D'ailleurs, tu m'as dit que tu aimais voyager, que tu as voyagé. Ça, ouais. Je sais. Est-ce que tu as déjà testé d'être freelance, comment ça s'appelle ?
Digital nomade. Ouais.
Tu as testé ?
Alors, je voulais le faire quand je suis partie en... C'était quoi ? Il y a deux ans, je ne sais même plus déjà. J'étais en Nouvelle-Zélande, du coup, et c'est vrai que quand je suis partie... Alors, moi, je suis partie là-bas, vraiment, c'était de la coupure après mon CDI, donc j'avais besoin de souffler. Okay. Donc... Clairement, je suis allée en me disant « Ah, j'aimerais bien tester », mais déjà, c'était pas du tout le bon moment parce que j'avais besoin, je pense, de au moins 3 mois de coupure nette avec toute activité de graphisme, tellement j'en pouvais plus, en fait, après mon CDI. Et en fait, après, du coup, j'étais abordée, d'ailleurs, par une ou deux personnes qui m'ont demandé de bosser, etc. Donc déjà, j'ai compris que c'était très difficile... la Nouvelle-Zélande, c'est quand même l'opposé, c'est quand même décalage horaire de 12 heures et tout, donc là c'est très compliqué. C'est pas pour rien que tout le monde va en Asie, parce que c'est le décalage horaire parfait, c'est-à-dire que il y a quand même un moment dans la journée où t'as les mêmes horaires que l'Europe, et puis le reste du temps tu peux bosser solo et vice-versa. Et du coup... Et donc, du coup, j'ai testé, j'ai fait deux, trois petits projets, vraiment pas grand-chose en Nouvelle-Zélande, et je me suis juste rendu compte que non, c'est... Enfin, déjà, ça me correspondait pas, parce que j'avais vraiment plus envie de voyager, et que, enfin, quand tu décides de voyager, c'est du temps plein, clairement. Et en fait, il faut une structure, il faut vraiment... moi, c'est ce que tout le monde dit aussi, tous les digital nomades que je connais, c'est... en fait, t'y vas pas pour être en vacances, t'y vas pas pour travailler, t'essayes de trouver un équilibre entre les deux, mais c'est vraiment, t'y vas avec un emploi du temps que tu peux adapter éventuellement, c'est-à-dire le matin tu travailles, l'après-midi tu t'en profites, ou l'inverse. Par contre, si t'as des urgences, ben tu travailles, en fait. Et ça, faut l'accepter aussi, enfin, je veux dire, d'être à l'autre bout du monde et de se dire, ah ouais, en fait, je pourrais en profiter, faire ci, faire ça, et voilà, et je pense qu'il faut vraiment partir en pleine conscience de ça, sauf ce qui n'était pas mon cas à l'époque, et je m'étais dit que je voulais tester, mais tu vois, rien n'était préparé, et ça, c'est hyper important, ouais.
Et tu retesterais une fois, peut-être, ou...
Je pense que oui, de toute façon, c'était dans mes objectifs de cet hiver, merci Covid, j'aimerais bien tester sur une durée d'un ou deux mois, ouais, pas plus, par contre, parce que j'ai aussi... compris que j'avais des habitudes de travail qui étaient propres à un lieu, j'ai besoin de mes références de livres qui sont chez moi, j'ai besoin toujours d'une imprimante, j'ai besoin de choses qui font que je peux pas partir longtemps, parce que si je bosse sur un projet et que je me dis ah tiens je pense à un bouquin qui est chez moi, que je n'ai pas, que je pourrais pas trouver évidemment sur place, c'est juste l'enfer, quoi, en fait. Moi ça me bloque, en fait, et du coup je me dis ouais, par contre, par des petites périodes d'un mois, du coup c'est très bref, en fait, finalement, mais au moins ça permet de souffler, d'être dans un autre lieu, un autre environnement, une autre stimulation, et tester, ouais.
On va dire qu'en print, c'est plus compliqué
C'est
qu'en
compliqué.
web.
Bah, de toute façon, quand on voit tous les digital nomades qui. Enfin, la plupart, c'est quoi? C'est des web designers, c'est des rédacteurs, des gens dans le SEO, éventuellement des devs. Mais voilà, ça va pas être effectivement. Enfin, moi, mon métier, il est trop compliqué à faire à long terme en voyage, quoi.
Sauf si tu deviens web, et je pense pas que tu as envie de
Non.
devenir web.
J'ai pas prévu.
Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être freelance, justement?
Ah bah, réponse basique, la liberté.
Mais moi, c'est un truc que j'arrive pas à me
Non, je
dire que
peux
je suis
développer.
libre.
C'est vrai?
Moi, je me sens mais pas libre.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, la liberté, elle est. Enfin.
Moi, je trouve c'est une fausse carotte. Tu vas être libre? Non, tu vas travailler 70 heures. Tu peux essayer d'avoir. Enfin, tu vois, après,
Ouais,
tu
mais
peux
en fait,
moduler de ouf, mais.
la liberté là-dedans, même dans le fait de travailler 70 heures semaine, par exemple, la liberté, c'est de choisir sur ce sur quoi tu travailles, quand tu travailles, comment tu travailles, avec qui tu travailles.
Mais après des années. Non mais à un moment, je veux dire la vérité.
En
Non mais
fait.
avoir une méthode de travail avant de
Ouais.
choisir les gens, il faut au moins 1 an, 2 ans, tu vois, avant d'avoir mis tout en place, je
Ouais.
trouve. Enfin, que acquérir la liberté, oui, elle existe, mais avant ça, il faudra quand même un peu bosser, tu vois.
Ouais,
Ça, c'est
sauf.
mon avis, parce que
Bien
je
sûr.
ressens
Non,
et
mais
que je
en
vois.
vrai, c'est la meilleure chose à mettre en place. Moi, j'avoue que. Ouais, je me dis qu'il y a déjà moyen, même en démarrant, en devenant freelance, tu peux déjà te dire. Tout dépend de comment tu envisages les choses, mais tu peux te dire, bah non, je travaillerai que 3 ou 4 jours semaine, par exemple. Et
Non, mais
après,
c'est
voilà!
hyper compliqué parce que t'as personne et tout, tu dois travailler.
Ah
Moi, je me dis que
mais c'est
ça,
ça, en fait
au
c'est
bout de
ça
trois
l'enjeu,
ans,
c'est que
ça va.
t'as personne, du coup c'est effectivement, en fait tout ce que tu vas construire, ça ne dépend que de toi, et c'est ça qui est puissant, c'est que du coup toutes tes réussites sont là que grâce à toi, mais par contre toute l'énergie que tu vas mettre dans un domaine ou dans un autre ou dans voilà ton activité. Ça ne dépend que de toi et c'est à toi de faire en sorte que ça marche. Et pour ça, faut t'en donner les moyens,
Il
effectivement.
faut avoir une expérience dans le freelancing pour le comprendre, trouver les bonnes actions. Enfin, moi, j'arrive mieux maintenant parce
Ouais.
que je me pose les bonnes questions, j'ai vu ce que c'était, etc.
Ouais.
Mais avant d'arriver à ça, faut avoir un peu, tu vois, quelques mois qui sont passés de down, de solitude, de désert. Et
Ouais, on est d'accord que les
puis
débuts sont
malheureusement.
vraiment pas faciles et effectivement, ouais, tout le monde ne le vit pas bien en plus, on est d'accord. Enfin, moi, je sais que je l'ai pas non plus bien vécu au début, mais je pense que pour ça, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est assez facile à dépasser ce stade-là parce que tu peux déjà aller travailler dans un espace de coworking, tu peux bien t'entourer avec d'autres freelances et tu vois, essayer de structurer ton activité, de la moduler comme tu le souhaites déjà en voyant comment les autres travaillent, comment ça leur réussit, en toi-même testant des choses. Et après, il faut de l'autodiscipline
À
à fond.
fond
À
et être très
fond.
persévérant, ouais.
Et être très persévérant. De toute façon, c'est ça, la clé, c'est la persévérance. Hein, c'est sûr.
Donc toi, tout ce que t'aimes bien, c'est voilà, ce sentiment de liberté quand même de
Moi, ce que j'aime
choisir.
bien surtout, c'est que c'est fou, mais je pense que ça a été vraiment mon point de rupture. Ça a été cette année de salariat. Et en fait, tous les jours, j'arrête pas de me dire, même si la journée, elle est compliquée, j'ai pas envie, je me force, etc. Je me dis juste, t'as choisi d'être là où tu es. Contrairement à justement quand j'étais salariée, je me souviens, j'étais dans mon bureau, cet open space insupportable où il y a du bruit partout,
Ouais,
impossible de
c'est
se
vrai.
concentrer et tout. Tu vois, enfin, dehors, il faisait super beau. Je regardais la fenêtre et je me disais, non, mais moi, en temps normal, dans ma vie idéale, là, je suis dehors. Parce qu'il est 15 h de l'après-midi, qu'il fait beau, que j'ai envie d'aller faire un tour et d'en profiter. Et c'est pas grave parce que je bosserai soir. Là, impossible en tant que salarié. Et franchement, ça m'a tellement marqué que tous les jours, je te jure, mais à chaque fois que j'ai le moral au plus bas, mais j'arrive à me dire, ben, je vis la vie que j'ai choisie. Même si enfin, s'il y a plein de choses qui vont pas, etc. J'arrive à rester contente de ça. Et c'est ce qui me plaît le plus, ouais, dans le fait d'être freelance, c'est vraiment de me dire je suis où je veux, comme je veux et avec qui je veux, en fait.
C'est ça qui est
Voilà.
trop bien, mais
Ouais.
persévérance. J'ai que ce... Moi,
j'ai ah bah oui.
dit, mais... c'est mon deuxième prénom maintenant. Je vais demander, tu vois, qu'on me change mon deuxième prénom et qu'on m'appelle Persévérance.
Ça t'ira bien.
J'ai l'impression de vivre que avec ce mot. Dès qu'on me dit, ouais, entrepreneur, je fais, t'es persévérant ? Non, tu vas apprendre à l'être.
Mais alors, c'est drôle parce que moi, je l'étais... Enfin, je sais pas si je l'étais, tu vois, au début.
Moi, je l'étais pas du tout.
Hein. et quand je me revois, il y a presque plus de 7 ans, je me disais, mais en fait, je l'étais pas du tout. Je pense que je l'étais... ouais, dans ma personnalité, peut-être à certains niveaux de ma vie, il y a quand même des choses où j'ai quand même un esprit de compétition, j'aime aller au bout des choses, tu vois, je suis pas du genre à lâcher le morceau, etc. Mais ouais, je l'étais pas du tout au début. Et par contre, c'est pour ça que je parlais d'autodiscipline aussi, c'est que à partir du moment où tu dis, ok, tous les lundis matin, je fais ça. La même chose tous les lundis matin. Franchement, t'as pas envie en vrai, parce que tu te dis, bah, je suis pas devenue freelance pour faire la même chose tous les lundis matin, ça me saoule. Mais en vrai, ça m'a sauvée, parce que clairement, si je me régulais pas comme une horloge, comme j'ai fait depuis quelques années maintenant, bah en fait, je serais toujours en mode, bon, de quoi est-ce que j'ai envie, sur quoi est-ce que j'ai envie de travailler ce matin ? Et là, t'avances pas, et ouais, c'est... C'est être régulier, persévérant, etc.
Moi, j'ai du mal à me régulariser. Genre, je suis dans ma to-do list, comme ça. Et puis, oh là, j'ai trop de choses à faire. Et faut que je me mette plus des modules, tu vois, dans la semaine, mais...
Je pense aussi qu'il faut pas se mettre trop de choses. Ouais. Il faut se faire une to-do list presque légère, entre guillemets. Enfin, après, ça, c'est mon mode de
travail. Deux, trois,
moi, par exemple, si j'ai 15 trucs à faire dans la journée, je les fais pas. Hein. Clairement, je me lève le matin, je me dis, ah bah non, je vais faire complètement autre chose. Et ça va pas m'aider. Par contre, ouais, je me mets... peut-être trois grosses tâches dans la journée, et je me dis, je sais pas, arrivé 14h, 15h, je me dis, tiens, mais en fait, j'ai fini, c'est cool, vas-y, qu'est-ce que je peux faire encore ? Et du coup, enfin, voilà, c'est un mode de fonctionnement, c'est vrai que moins je me mets la pression, mieux ça se passe. Après, ça dépend des personnes, quoi.
Et t'as aussi créé une communauté pendant le premier confinement, qui s'appelle Freelance à Strasbourg, et comment ça t'est venu, en fait ?
Ah bah ça, c'était très simple. Du coup, je suis revenue à Strasbourg courant de l'été 2019. Et bon, les premiers mois, voilà, ça a été récupérer du voyage, etc. Mais après, je me suis dit, tiens, j'ai envie de rencontrer des gens, en fait. Moi, j'adore rencontrer des gens. Tous horizons possibles. Continuer un petit peu ce que j'avais connu en voyage, en fait, tu vois, de toujours rencontrer des gens, de découvrir des personnalités, des histoires, etc. Et je me suis dit, bon, bah, je vais rejoindre un groupe de freelance, il doit y en avoir ici, et impossible d'en trouver un. Alors voilà, je suis tombée sur le groupe des entrepreneurs, des designers, probablement des motion designers, enfin, plein de groupes, vraiment, ils ont tous lieu d'être. Mais bah, du coup, ça ne correspondait pas du tout à ce que je cherchais. Je me disais, bah non, moi, je veux des freelances, des gens qui font le même, pas la même activité, mais qui ont le même statut que moi, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément 10 salariés sous eux, voilà, ou que qui ont un peu cette même mentalité de j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de partager des choses sur mon activité, j'ai envie de travailler ensemble à certains moments, et voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais le créer. Mais vraiment, l'idée lambda, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais le créer, on sera 10 et ça sera cool.
Comme 160.
On est en 70 maintenant. Ouais. Et ça me dépasse toujours, mais...
Mais combien de fois j'ai pas demandé pendant, genre, je te jure, au mois de mai, juin, j'étais là, putain, mais j'aimerais tellement trouver un groupe de freelance là à Strasbourg, j'en ai marre et tout d'être seule. Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh mon dieu, il existe ce groupe que je cherche depuis un milliard de temps.
Mais c'est fou parce que j'ai énormément de retours similaires aux tiens, parce que en vrai, j'ai l'impression d'avoir comblé une attente, mais générale. Et encore, je pense qu'il y a encore...
Tu savais même pas qu'il y a cette demande.
Ben non, et en fait, moi, je suis partie du principe, tout bête, je me suis dit, attends, si moi, je cherche ça, il y a au moins quelques autres personnes qui le cherchent aussi. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait une vraie demande derrière, à ce point, que les gens accrochent autant avec l'idée d'être une communauté, enfin, d'appartenir à une communauté, de construire quelque chose ensemble, parce que c'est aussi ça l'idée. Et en fait, ce qui m'a vraiment touchée dans la création de ce groupe et depuis, enfin depuis sa création et tout ce qu'on vit ensemble maintenant, c'est la, je sais jamais comment dire, c'est la mentalité des gens qui est tellement, je m'y retrouve complètement en fait. C'est que je pense à une ou deux personnes près, il n'y a pas une personne qui ne voit pas les choses de la même manière que moi, et je trouve ça incroyable parce que j'en ai connu des freelances quand même aussi auparavant à Paris, etc. Mais c'était pas pareil parce qu'on était tout, enfin les gens étaient, on était tous un peu dans notre monde, etc. Et là je trouve que bah il y a une ambiance générale qui fait que on s'entend tous super bien, on a tous envie de se rencontrer, on est tous motivés à faire des choses, enfin il y a une énergie, une belle énergie qui se dégage de ce groupe, et c'est trop chouette quoi.
Mais à Strasbourg il y a tout à créer, hein,
messieurs. Ouais. Mais c'est ça qui fait plaisir ici d'ailleurs.
Tu vois, ils se rendent pas compte, ils disent ouais, la ville elle bouge pas, mais parce qu'il y a trop de choses à créer.
Il y a trop de choses à créer. Mais en même temps, tu vois, j'ai aussi compris que alors peut-être.
Ça reste une mentalité alsacienne. Hein.
Ouais, je sais pas si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que les Strasbourgeois, faut les prendre par la main un petit peu aussi pour faire des choses, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, ce groupe, il y avait plein d'attentes, mais personne ne l'a fait.
Ah oui.
Ouais. Et mais pour plein de choses, c'est-à-dire, je dis toujours à tout le monde, mais organisez des événements si vous voulez, il n'y a pas de souci, moi j'ai pas besoin d'être la maman. Mais en fait, je continue à organiser des événements régulièrement parce que sinon ça se fait pas automatiquement. Alors on en est au tout début et qu'importe, ça va prendre du temps, c'est vraiment en train de se développer, c'est, comment dire, c'est un bébé encore le projet, mais... Mais je pense qu'à Strasbourg, il faut...
Après, c'est une communauté de ça. Les gens aiment bien les leaders, les gens qui tracent la voie. Donc ça, c'est compliqué. Hein.
Même mais après, c'est de l'énergie aussi, surtout.
Non, mais après, à Strasbourg, le truc qui se démarque énormément, c'est qu'il y a beaucoup qui parlent et il n'y en a pas beaucoup qui font.
Ouais.
Donc si tu fais, tu sors de la masse, tu vois. Si tu parles un peu, les gens, ils t'entendent et tout. Et des fois, enfin... Friande, c'est tellement la solitude, tu vois, que je pense avoir quelqu'un un peu qui est là, fait hey, coucou et tout, on fait des trucs, ben ça fait du bien.
Mais c'est ça.
C'est chiant pour
mais
toi.
Mais en même temps, il y a. Oui, non, mais après, c'est pas grave parce que ça vient d'une motivation profonde en fait. Donc moi, je suis trop contente d'organiser tout ça et de motiver un petit peu les troupes et tout. Et en même temps, je me rends compte que je suis pas toute seule. Là, à force de rencontrer des gens à droite à gauche, justement via le biais de ce groupe. Bah, je me dis, ah ouais, finalement, il y a d'autres gens qui ont aussi d'autres ambitions, qui veulent faire bouger les choses à Strasbourg. Et ça, c'est cool, parce que si on est tous dans la même énergie et tous dans le même engrenage, mais ça va être génial, quoi. Ça va être génial, parce qu'il faut, effectivement, là, on est une des seules grandes villes en France où on est un peu à la traîne, justement, à ce niveau-là.
Très à la traîne.
Ça arrive doucement. Très lentement, mais...
Je parlais avec Maxime, qui est un autre freelance. Lui, il est à Bordeaux. Il était en Alsace. Lui, il est parti parce que l'Alsace, il a saturé. Il n'aime pas la mentalité. Il a dit, tu te rends même pas compte comme c'est différent ailleurs.
Il a dit... Je comprends.
Des fois, j'hésite, moi, à partir. Il y a des coworking partout à Bordeaux, genre. Ouais. Ici, il y en a genre 4. Alors, je suis contente qu'il y a des gens qui se lancent dedans.
Mais en fait, c'est même pas que une question d'espace de coworking. Non, mais parce que
ça donne envie, tu vois.
Ouais, mais c'est même pas... Je trouve que moi, mon attente, par exemple, elle est même pas là. C'est quand je vois... effectivement, tu citais Bordeaux. Moi, je regarde beaucoup du côté de Nantes actuellement.
On peut Nantes, c'est grave entrepreneur.
C'est un truc de fou. On peut prendre l'exemple même de Lille qui...
Aussi, ils ont fait des exits de fou dans les startups.
Sans parler de Lyon, mais clairement, en fait, ce qu'il faut, c'est des lieux où il y a de la vie, en fait. Tu vois, quand je regarde Nantes, en fait, là où les gens... Tu peux aller faire une journée de coworking, mais c'est même pas forcément dans un espace de coworking. Ça peut être un hôtel qui fait aussi ça accessoirement. Ça peut être une sorte de restaurant, cafétéria, ancien. Enfin, en fait, il faut des lieux un petit peu hors normes. Et ça n'existe pas à Strasbourg. Et il n'y a pas encore cette énergie-là. Et je pense qu'elle va venir, cette énergie-là. Mais j'ai l'impression que le fait d'être si collée à l'Allemagne aussi et qui est très conservatrice à certains niveaux, enfin du côté de ce côté de l'Allemagne, hein, on parle pas de Berlin, etc. Non. Hein. Donc ouais, je pense que ça va mettre du temps, mais clairement, en fait, c'est ce qui m'intéresse aussi ici, c'est parce que pareil que toi, il y a plein de fois où j'ai envie de bouger parce que bon, moi, j'adore bouger, j'adore expérimenter de nouveaux modes de vie, de nouveaux lieux et tout. Mais je me dis, mais en fait, à Strasbourg, il y a tellement de trucs intéressants à développer, à construire, et tellement de projets à voir. Et c'est ça qui... Cette énergie-là, elle est bonne à prendre, en fait.
Tu vois, genre les coworking, là, ben là, tout le monde fait le même style de coworking.
Exactement, c'est pour ça que je parlais de...
Non, je citerai pas. C'est génial, ce que vous faites, génial, formidable. Mais faites inspiration parisienne, ouais. Nantes, New York, Berlin. Ayez de l'audace, tu vois, ouais. Genre.
Ayez de l'audace, tu l'as dit.
Et je, voilà, ce que je dis sur mon blog rien. Et tout, l'audace, les échecs, c'est comme ça. En fait. C'est pas grave, on s'en fout. Mais ouais, à un moment, faut qu'on aille plus fort, plus vite.
Exactement.
Et des gens. Ah, les
Bah, surtout qu'on on le voit, hein, on le voit nous dans notre groupe, mais même pas que au niveau des freelances, je pense. Il y a une vraie demande en fait de ça. Il y a une demande générale du fait que il faut de nouveaux lieux, il faut de voilà. Bon, après évidemment on n'est pas du tout dans la bonne période pour ça, mais voilà, il faut penser
sortir,
après quoi.
Voilà.
Ouais voilà, on est d'accord.
Et il y en a qui pensent qu'il y aura plus de freelance. Bon, ça j'y crois pas de ouf parce que je me dis à un moment il y aura beaucoup de dépressifs aussi.
Moi, je pense que enfin, après, voilà, c'est ma conviction profonde depuis des années, mais après, parce que je milite pour ça aussi depuis 7 ans maintenant, mais je pense que le freelancing va être la nouvelle norme d'ici quelques années. Alors, je dis pas qu'on sera plus nombreux que les salariés, ça probablement jamais. Hein, c'est
mais évident. C'est très bien, parce que moi, je pense qu'on peut pas tout...
Et de toute façon, il faut, je veux dire, le monde est fait pour tout le monde, il faut des salariés, il faut des freelances, il faut des gens qui lancent des startups, il faut des chefs d'entreprise, etc. Enfin, voilà, il faut de tout, mais de toute façon, enfin, quand on le voit avec les chiffres, alors là, je les ai pas en tête, mais clairement, le nombre de nouveaux freelances... Ça se développe d'année en année. Il y a 7 ans, je sais même pas combien on était, mais c'était ridicule. Aujourd'hui, mais c'est... Déjà, les gens savent ce que c'est que d'être freelance. Il y a 7 ans, quand j'en parlais, on me disait, ça veut dire quoi, en fait? Voilà. Mais en gros, ouais, je pense qu'en fait, ça va se démocratiser. C'est ça qui est important, en fait. Ça va pas être une norme au point d'être plus très très nombreux, mais en tout cas ça va se démocratiser, ça va devenir quelque chose de normal, comme le fait d'être salarié. Ça va être plus simple aussi parce que on en vit des galères aussi pour trouver un appart, pour demander un investissement, pour plein de choses, etc. Donc clairement il y a des choses qui vont aller de mieux en mieux, mais pour ça effectivement il faut plus de monde encore, et je pense que ça tend à se développer, parce que même tu vois aujourd'hui c'est un peu le revers de la médaille, c'est que tout le monde rêve d'être freelance parce que tout le monde rêve d'être libre. Tout le monde... Et encore une fois, on parle pas de la même liberté. Non. On parle pas de la liberté d'aller bosser sur une plage entre 15 et 16 heures et c'est tout quoi. Mais
ça c'est un fantasme que beaucoup ont, et en fait c'est un fantasme.
C'est ridicule.
Quand t'es pas bien dans ta boîte, etc. Là faut se poser les vraies questions. Quand
exactement. La question c'est même pas le statut, c'est le boulot, c'est tout ça. Parce qu'en vrai on est d'accord que en tant que freelance tu bosses 10 fois plus qu'un salarié. En temps normal. Donc après, tout dépend de ton domaine, tout dépend de ce que tu fais, etc. Mais voilà, il faut les épaules pour. Et en même temps, ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, ça vend du rêve. Donc c'est pas pour rien aussi qu'il y a beaucoup de salariés qui deviennent freelance en plus de leur boulot à côté. Tu vois. Et tout ça, ça joue dans le, ça pèse un petit peu aussi dans le jeu parce que parce qu'en fait, plus on est de freelance, même en termes de chiffres, plus tout ce qu'on revendique derrière, en fait, tout enfin le fait que le statut soit reconnu aussi, c'est hyper important. Ça fera poids au bout d'un moment, quoi.
Ouais. Même Pôle emploi, jusqu'à il y a quelques années, tu pouvais pas avoir de Pôle emploi du tout. Maintenant, il y a des conditions, mais il existe. C'est pas une somme incroyable, mais waouh, enfin, quoi. Mais il faut avoir fait un certain chiffre d'affaires sur 2 ans.
Mais il faut plein de conditions encore,
mais
des conditions très très particulières. Ouais.
Enfin, il existe. C'est enfin waouh, genre ouais. Et peut-être que s'il y a plus de freelance, ce sera plus facile d'avoir des prêts, plus facile pour avoir les loyers, etc. Parce que c'est une catastrophe d'avoir un appartement quand t'es freelance.
Bah oui.
Je connais des gens qui se sont fait avoir à devoir payer un an de loyer alors que c'est interdit, tu vois.
Pardon.
Ouais, ou pire, genre une catastrophe, tu vois.
Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair.
Et on va passer sur ma partie préférée. Quel est ton plus grand défaut?
Je dirais, même si franchement je l'ai bien soigné ces dernières années maintenant, c'est mon manque de diplomatie, en fait. Et alors...
Ouais,
et alors...
J'aurais jamais cru ça de toi.
C'est vrai. Non, parce que... Non, mais je trouve ça intéressant, en fait, parce que je pense que c'est un travail quotidien que je fais tous les... Enfin, vraiment, je travaille sur moi quotidiennement là, à ce niveau-là. Et en fait... Je voulais en parler avec toi d'ailleurs, mais parce que pour moi, c'est aussi propre à l'Alsace. Et alors, je dis ça... En fait, c'est plus ou moins un défaut, dans le sens où je pense qu'ici, les gens sont très authentiques, très transparents, à tel point qu'il manque de diplomatie. Et ce que je veux dire par là, c'est que ici encore, ça peut passer, mais dans d'autres endroits, type Paris, type le reste de la France, ça passe pas du tout. Et c'est vrai qu'avec des clients, parfois, ça a posé problème. Le fait que je sois très cash, très brute dans mes propos, que je dise ce que je pense, et en fait, non, ça passait pas.
Une autre question, qu'est-ce que tu détestes faire dans ton métier, hormis...
Ce que j'aime pas faire, c'est... Je pense à plusieurs trucs, mais je dirais... Bah, ce que presque aucun indépendant n'aime faire, c'est le démarchage, quoi. C'est aller chercher des clients, en fait. Clairement, enfin, moi, je sais que... Enfin, je le vois, Enfin, je suis pas créa pour rien, en fait. C'est que je suis pas commerciale, en fait. Et
Mais
encore...
personne n'est commercial, même pas un vrai commercial est
Bah,
commercial. Ils
figure-toi
doivent
qu'il y en a,
apprendre.
j'en connais, il y
Oui,
en
mais
a...
ils ont appris des tonnes et des
Mais
tonnes
peut-être
de
aussi, non,
choses.
je pense que une question de personnalité,
Ouais,
ils aiment
ça.
bien ce challenge de devoir se vendre, tu vois, ce...
Bah, tu sais quoi, c'est bizarre, les commerciaux, c'est tous des gens timides de base. Et ça, c'est un truc, ça me fait toujours
Non,
bizarre.
c'est possible,
Ils
j'ai
ont
jamais...
tous des passés de timides. J'osais pas parler aux gens, j'étais...
Oui,
Et
non,
ça,
c'est vrai que c'est
dingue.
très cliché, mais oui.
Et en fait, on sait pas, mais quasiment tous les commerciaux sont des gens hyper timides. Donc, ils sont encore pires que nous, de
Ouais,
base, tu vois.
c'est vrai. Mais en fait, non, moi, c'est même pas le côté timide, parce que tu vois, encore,
Non, c'est
comme je te
dur.
disais tout à l'heure, moi, j'adore parler aux gens, j'adore les rencontrer. Moi, si demain, je pouvais dire, hé, hey, coucou, j'aime bien ce que vous faites, venez, on fait un truc ensemble, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours réfléchir à comment tu présentes la chose, sous quelle forme, arriver au bon moment, avec les bons mots. En fait, c'est ça, c'est une question d'argument, une question de réflexion, de fond. Et enfin, moi, ça me prend tellement d'énergie, en fait. C'est ça, c'est énergivore. Et du coup, je me dis, bon, c'est important, mais voilà, du coup, je le fais quasiment plus, en fait. Aujourd'hui, enfin, je démarche à peine, en fait, parce que, enfin, je le fais parce qu'il faut. Mais en gros, j'arrive à... Ma priorité, c'est beaucoup plus de construire un réseau, en fait, et via le bouche à oreille.
Ce qui marche bien aussi, hein.
Voilà, c'est ce qui marche bien ici, mais même, voilà, quand t'as des contacts solides depuis quelques années, donc heureusement, ouais, j'arrive à avoir des bonnes relations de travail avec certaines personnes avec qui j'ai travaillé auparavant. Voilà, parfois on me recontacte au bout de 2 ans et je me dis, ah bah trop cool. Et souvent, ça tombe toujours au bon moment. Et voilà.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse à me partager?
Bah écoute, j'ai pas grand-chose de honteux à raconter, j'ai juste le souvenir d'un moment juste avant un rendez-vous client où j'étais à la bourre, comme ça m'arrive souvent, et je craque mon pantalon. Du coup, mais vraiment, tu sais, le truc qui n'arrive que dans les films,
Aux fesses
où
comme ça là, bien sûr.
voilà, tes fesses, mais alors pourtant, en plus, c'était un de mes pantalons préférés.
Promis.
Mais voilà, je le craque, parce que dans un mouvement de précipitation, bam, et je me souviens, j'étais dans mon bureau à ce moment-là à Paris, il fallait que j'aille à l'autre bout de Paris en vélo. Oui, en plus, j'étais pas chez moi.
Moi, je serais allée dans un H&M en bas, tu vois, et je
Ah,
l'aurais
mais
acheté
du
deux
coup,
fois.
j'ai appelé le client. D'ailleurs, il répondait pas. L'angoisse. Non, pour le coup, c'est vraiment la honte parce que j'ai pris le temps de rentrer chez moi. J'habitais à 5 minutes. Mais de rentrer chez moi, mais en speed. Donc, tout ça. En plus, il faisait genre 30 degrés en vélo. T'arrives en nage et tout. Et ben, le client, il n'avait pas eu mon message. Donc, il m'attendait depuis genre un quart d'heure au moins. Voire, ouais, peut-être. J'ai eu un bon quart d'heure de retard, ouais. Et c'est un peu la honte quand même. Et je me souviens, je crois que c'était un début de mission.
Ah
Et
ouais.
ouais, c'était genre pas du tout le bon timing. Mais en même temps, je préférais arriver en retard qu'arriver avec un pantalon.
Là, t'as dû dire ça, j'ai vraiment craqué mon pantalon, j'ai...
Mais je crois que je lui ai pas dit en fait,
Non, j'aurais
c'est
dû.
dommage. Ouais, j'aurais dû lui dire, je sais pas, ça s'est pas fait. Et bon, finalement, heureusement, la mission s'est très bien passée. Mais
Et pour finir, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
bah, ça rejoint ce qu'on se disait un peu plus tôt, c'est lié à la persévérance, mais je pense que ce qu'on m'a vraiment dit un jour dans ma vie, c'était au début de mon activité, quand en fait je m'éparpillais beaucoup, comme on disait tout à l'heure, je doutais quand même sur plein de choses, sur est-ce que c'est la bonne direction à prendre, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie, est-ce que si, est-ce que ça. Et en fait, j'ai un ami qui m'a dit, il était lui-même freelance, et vraiment, ça faisait longtemps pour lui, et il m'a conseillé de faire ce que j'aime, juste faire ce que j'aime, trouver le cœur du truc que j'aime et de le faire, et de ne pas tenir compte de toutes les tendances, de tout ce que, bah déjà, ce que je pouvais entendre, mais tout ce qu'on pouvait me dire aussi, parce qu'évidemment, on a dit des trucs en mode, bah non, le print, ça sert à rien, il faut faire du web, non, mais pourquoi t'es freelance, faut te mettre en... enfin, faut que tu sois salarié, mais tu vas jamais réussir à gagner ta vie, etc. Bref. Et clairement, je pense que c'était le meilleur conseil, parce que je me suis mise des œillères, et je me suis dit, ok, moi, je vais faire du print, je vais faire des bouquins. Maintenant, je fais aussi un peu de packaging, etc. Mais je veux faire que du print. Je veux pas aller plus loin. Et en fait, j'ai gagné en confiance en moi. J'ai gagné en expérience. Enfin, j'ai gagné. J'ai réussi à m'affirmer, en fait. Ça a pris du temps, évidemment. Ça s'est fait en claquant des doigts. Mais je pense que, tu vois, le fait de se dire, ok, maintenant, je décide de faire ce que j'aime. Et je le fais tous les jours de ma vie, même si les gens s'en foutent, parce qu'au début, bah, peut-être personne va tenir compte de ce que tu fais. Même si je subis des critiques, même si voilà, on me ferme des portes et tout. Si c'est ce que j'aime, j'y vais. Et voilà, après, dans la mesure du possible, dans le sens où si tu fais ça depuis 10 ans et qu'en 10 ans, ça fonctionne toujours pas, voilà. mais au moins persévérer dans ce qu'on aime, et je pense que c'est le plus important, parce qu'à partir du moment où t'aimes faire un truc, ça se ressent, en fait. Ça se ressent dans tes relations avec tes clients, ça se ressent avec dans le plaisir que tu prends à travailler, ça se ressent dans tout, en fait. Et ça se dégage, et du coup, ça attire le positif, forcément. Donc voilà.
Ben, je pense que ce podcast est terminé. Oui. Je posais toutes les questions que j'avais envie de te poser. Donc merci d'avoir participé.
Merci à toi, Priscilla.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.